Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Parler Temps qui court, tous les soirs, une conversation d'une heure, et ce soir c'est avec Patrick Chauvel.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parler temps qui court.
Marie Richeux avec Patrick Chauvel.
Je suis arrivée à Saïgon le 14 janvier 1968. La guerre était au rendez-vous. Puissante, passionnante, dangereuse, dégueulasse, injuste, insistante, elle parlait d'une voix forte, provocante, « Je suis la mère de toute chose », la grande force qui entraîne et transforme les sociétés. Je suis leur puissant moyen d'expression. Tribunal de l'histoire, je pèse, juge et modèle le monde. Je fais les dieux et les rois, les maîtres et les esclaves. Je fascine les hommes et la paix elle-même vit dans ma fascination. Je puis dresser à mort le frère contre le frère, je puis arracher par milliers ou par millions l'enfant au père et l'époux à l'épouse, tout en exaltant leur sacrifice. Disposant par le déchaînement de la violence de millions de vies, je suis, sans doute, la cause la moins divine de la mort. Ce sont les mots que vous nous proposez de lire, Patrick Chauvel, avant de faire face à plusieurs photographies qui retracent 50 ans de votre travail de correspondant de guerre photographe. Et c'est une exposition qui a lieu après avoir été montrée à Perpignan dans une autre mesure, cette fois dans la nef de Radio France jusqu'au 25 octobre. Bonsoir à vous, Patrick Chauvel, et bienvenue.
Bonsoir.
Alors, il y a quelque temps, vous disiez que voir des photographies de guerre ou voir vos photographies de guerre sur des murs, vous trouviez ça problématique. Comment ça se passe là, de les regarder de cette manière-là ?
Ça me gêne toujours, mais là, bon, évidemment, c'est cette date anniversaire qui me plaît pas, ça veut dire que j'ai vieilli, mais c'est ok, c'est comme une borne, hein, je m'arrête, je regarde en arrière, et je propose une partie de mon travail pour qu'on puisse en parler, en fait. Le seul truc qui me gênait, c'est que j'ai fait 3 expos, en fait, dans ma vie, et c'est... Quand il y a toujours un cocktail au vernissage, et d'avoir des gens qui buvaient du champagne, et mangeaient des petits fours, ils parlent de tout sauf de l'expo. En général, parce qu'ils se retrouvent, c'est un endroit où se retrouver. Face à ces photos où je reconnais des personnages avec qui j'ai vécu ces drames, ça m'a toujours dérangé. Alors c'est peut-être bête de ma part, mais donc du coup je demande à chaque fois qu'on déplace l'endroit du cocktail, comme je l'ai fait ici d'ailleurs aussi. Ça devait être dans l'entrée, ça l'est plus. Parce que ça me dérange par rapport aux gens avec qui j'ai vécu cette histoire. En même temps, ça se justifie d'une certaine manière, parce qu'eux, ils me demandent toujours, quand je suis sur place, est-ce que tu vas nous montrer, est-ce que tu vas parler de nous ? Donc, faire une expo, c'est une sorte de continuité de reportage. Et c'est pour ça qu'il y aura une expo permanente au mémorial de Caen, en Normandie, à partir de février. Puisque le mémorial de Caen va loger ma fondation et mes photos en permanence.
Donc, ils vous demandent les gens quand vous retournez sur le terrain, ils les vivants. Moi j'ai été stupéfaite, peut-être je m'attendais pas à ça, c'est étonnant, de voir autant de corps morts sur toutes les photographies. J'ai remonté comme ça le couloir, puis les redescendu, puis les remonté, puisque la nef de Radio France se présente de cette manière-là. Et bien que vos mots qui nous accueillent, qui sont vraiment des mots sur la vie, sur la mort, sur la guerre, nous y préparent d'une certaine manière. Je m'attendais pas à autant de corps morts.
Il y en a tant que ça?
Ouais. Ou peut-être plus que je n'en pouvais supporter, voilà, probablement.
Plutôt,
hein.
Ouais. Parce qu'il n'y en a pas tellement. Hein.
C'est vrai.
On a fait attention quand même.
Pourquoi vous avez fait attention?
Parce qu'on n'est pas là pour choquer, on est là pour interpeller. Donc il faut montrer les morts parce qu'on peut pas être dans le déni. Mais il y a une dose, on est quand même en train de proposer quelque chose. Et... si les gens nous tournent le dos, on peut pas leur parler. Donc, on n'est pas là pour choquer le public, on est là pour l'informer. Donc, on peut pas lui cacher tout, mais on, on peut adapter, on va dire, le discours à un certain public. Et la photographie, c'est une conversation aussi. Donc, on fait attention.
Moi, pourtant, parfois, c'est pas les plus choquantes. Hein. Il y a des photographies qui ne montrent pas des corps morts et qui sont bien plus difficiles à supporter et à soutenir du regard.
Bah, de toute façon, oui, les enfants qui souffrent, déjà, c'est ce qu'il y a de pire. Et j'en ai quelques-unes, malheureusement, qui sont pas là. Moi, je photographie tout. Je ne montre pas forcément tout à la presse, ou en tout cas au moment où ça a été fait, parce que quelquefois, hors contexte et à chaud, ça peut avoir un effet totalement négatif ou contraire à l'histoire. Par contre, il faut tout photographier, parce qu'on ne travaille pas que pour la presse. On travaille pour la mémoire collective, pour les historiens, pour les étudiants, les lycéens. C'est aussi le but qu'il y aura au Mémorial de Caen. C'est-à-dire qu'il y aura des visites d'écoles, d'universités, il y aura des historiens, il y aura des discussions. Parce que au Mémorial de Caen, ce ne sera pas une expo de photographie, ce sera une expo historique sur les guerres depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à maintenant. La guerre froide, la fin des guerres de colonie, jusqu'à aujourd'hui. C'est plus à but
pédagogique,
historique, voilà, que photographique. On s'appuie sur les photos, bien sûr. Mais c'est pour inviter des historiens à en parler. Et il y aura des conférences et des choses comme ça. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est l'histoire.
Oui, parce que vous dites finalement, même les montrer, faire trois expositions, ce qui au regard de votre immense parcours est assez peu, Patrick Chauvel, en fait. Ce qui vous intéresse, c'est qu'on puisse parler de ça, comme si la photographie était toujours un point de départ pour vous.
C'est un point de départ. Parce que moi, je raconte une histoire, je raconte leurs histoires. Moi, je suis le go-between entre les gens qui me parlent et le public. Et on est aussi un peu comme des sentinelles, on alerte, on dit attention. Que les gens reconnaissent les signes. Le Bataclan, c'est des signes pour moi, c'est des lumières rouges qui s'allument. Je reconnais des choses que j'ai vécues sur les guerres et que les gens reconnaissent pas forcément ici. Mais c'est, quand ça se rapproche et que ça se répète, j'avais fait un projet qui s'appelait Guerre ici, où j'avais mis la guerre à Paris. J'avais fait des montages avec Paul Biota, qui est un artiste qui travaille les photos. Je prenais des photos de Paris vide et je juxtaposais des photos de guerre pour montrer aux gens que ça pouvait arriver ici. Pendant 15 ans, on m'a refusé l'expo parce qu'on trouvait ça anxiogène. J'adore ce mot. Et finalement, c'est Bayeux, le festival des correspondants de guerre, qui l'a exposé dans la rue, et ensuite la Monnaie de Paris. Et ça a provoqué des discussions, et c'était des montages où on mettait les Tchétchènes à Paris, etc. Or, aujourd'hui, je peux faire les mêmes photos sans montage. Il y a 3 jours, j'ai photographié les chasseurs alpins devant la préfecture de police en tenue camouflée, avec une arme de guerre et la rue vide. C'était pas un montage. Et on finit par s'habituer à ça, mais il faut faire attention parce que la guerre, elle arrive, elle est sournoise, elle vient doucement, et si on n'est pas vigilant, c'est très facile de commencer le chaos, c'est très très difficile d'arrêter une guerre.
Ce texte dont je parle, il mentionne aussi une sorte de conversation à trois qui décide de votre départ. Jeune homme, Patrick Chauvel. Est-ce que vous vous souvenez du rapport que vous aviez avec ce mot-là, justement, ce mot que vous prononcez beaucoup, cette guerre? Est-ce que vous vous rappelez, enfant ou adolescent, ce que ça recouvrait en vous?
L'aventure. L'aventure, aller jusqu'au bout, voir si on est courageux, donner un sens à sa vie, en la risquant. C'était assez simple pour un adolescent. Peut-être tuer mon père aussi un peu, quand même, parce que...
Au passage,
vite fait, comme ça, se débarrasser de Schneiderfer, mon oncle, se débarrasser du diplomate, mon grand-père, et de Jean-François Chauvel, le grand reporter, parce qu'ils étaient quand même assez pesants. C'était des personnages assez lourds. Mon grand-père avait été soldat en 14, blessé. Ensuite, donc, mon grand-père qui a fait partie d'un réseau de résistance avec Jean Moulin. Et ensuite, il est ambassadeur de France, il signe les accords de Genève, parce qu'il est avec Mendès France. Je suis là, d'ailleurs, quand il signe les accords, j'ai 4 ans.
Il y a une photo de vous en train de faire face aux journalistes dans des grillages.
Qui passe déjà dans le match, comme disait Schneiderfer après, en 68, il me dit, tu vois, en 54, t'es déjà en Indochine. Donc il a fallu peu de temps, en fait, 14 ans plus tard, t'as une double dans le match, mais c'est toi qui l'as fait, t'es plus dessus. Et mon oncle qui s'appelle Schneiderfer, parce qu'il a épousé la sœur de mon père, ils sont connus sur un terrain de guerre qui raconte ces histoires de captivité, de Dien Bien Phu. Ma mère qui est corse, dont le cousin est capitaine de Légion, est blessé à Béatrice, la première colline qui tombe à Dien Bien Phu.
Ça fait beaucoup quand même.
Mon père, qui a été soldat malgré lui pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est blessé aussi gravement par les Allemands, évacué par la 82e Airborne. C'est une petite blague que j'ai fait aux soldats américains quand ils m'ont descendu à Panama. Et ils m'ont soigné. Je leur ai dit, à mon réveil, vous faites le paquet complet aujourd'hui. Vous flinguez et vous soignez. À l'époque, c'était les Allemands qui flinguaient et vous soignez. Ça les a pas fait rire. Parce qu'en fait, c'est eux qui m'avaient flingué, que c'était ce qu'on appelle un friendly fire. Donc, Newsweek avait titré, ils avaient fait un petit papier sur ma blessure parce que je travaillais pour eux. Et le titre, c'était Oups.
Ça comme arrive. Quoi, on manque pas d'humour, y compris sur le front de guerre.
Heureusement qu'il y a de l'humour sur le front de guerre. Les mauvais films de guerre, les gens sont toujours sérieux. Dans la vraie guerre, il y a des moments de fou rire, des moments de larmes. Il y a des gros mots, il y a des gens qui trébuchent, il y a des gens qui tirent de travers.
Et même des gens qui s'aiment, plus ou moins loin du front.
Bien sûr.
Donc ça veut dire que lorsque vous demandez, entre guillemets, l'autorisation à partir, finalement vous êtes extrêmement familier de la guerre, Patrick Chauvel.
En tout cas, je connais toutes les histoires qu'on m'a racontées. Et ce sont des gens qui racontent bien, c'est quand même Kessel, Gilles Caron qui fait des photos, c'est toute cette bande, il y a l'Artegui, c'est des gens qui racontent, je suis fasciné par leurs histoires. Donc à un moment donné, je vois pas pourquoi. En plus, bon, au niveau des études, j'avais une concentration possible de 3 minutes. J'aurais passé mon bac à 50 ans, c'était peut-être pas la peine d'insister. Et donc, en plus, bon, on m'a pas demandé mon bac, en fait, depuis que j'ai commencé. Donc j'ai proposé à mon père de partir, et c'est Kessel et Schoenhofer qui ont dit « vas-y, on va voir ». J'étais d'ailleurs surpris qu'ils disent oui aussi vite.
Mais on va avoir quoi, en fait?
Bah, au début, on va se regarder soi, en fait. On va se mettre dans une situation extrême pour voir ce qu'on vaut, puisqu'il s'agissait de ça, de courage, de je dirais pas d'abnégation, mais ils avaient... Schoenhofer a dit un truc très juste en parlant de mon père après la mort prématurée de mon père. Il m'a dit, tu vois, ton père, il a eu la chance que peu d'hommes ont. Il s'est battu, les armes à la main, prêt à se sacrifier pour une cause juste, et il n'avait aucun doute sur la cause.
Ce qui est assez rare.
Il m'a dit, c'est très rare. Parce que pendant la guerre d'Indochine, on avait des doutes. La guerre d'Algérie aussi. La Deuxième Guerre mondiale, la bataille de Normandie, la bataille à la frontière allemande, on n'a aucun doute que la bête en noir, il faut la battre. Et c'est vrai que mon père a eu cette chance de vivre l'émotion du sacrifice extrême et de se mettre en danger et de se battre pour une cause juste, sans aucun doute là-dessus. Et ça, c'est formidable, c'est dans la vie d'un homme. Alors nous, on a l'espoir que nos images et nos récits servent à quelque chose.
Oui, on y reviendra sur cette question de l'utilité. Peut-être un mot sur l'objet avec lequel vous partez, cet appareil-là. Ce qui va vous suivre ensuite, ou c'est vous qui allez le suivre, je ne sais pas. Mais alors moi, je voulais savoir ce que vous aviez comme rapport avec la guerre. Qu'est-ce que vous aviez comme rapport avec les images?
Moi, je faisais beaucoup de BD. J'étais premier en dessin, donc j'aime beaucoup l'image. J'étais nul en orthographe. J'ai décidé de faire ce qu'il y avait de plus facile. En fait, je me suis trompé. Hein, c'est pas facile du tout. Mais je croyais que c'était ce qu'il y avait de plus facile. Donc quand je suis parti pour la première fois... Parce qu'il y avait une annonce dans un journal où les Israéliens demandaient des volontaires pour remplacer leurs soldats mobilisés, parce que la guerre était pas loin, c'était en 67. Ils étaient mobilisés à cause d'une guerre éventuelle. Donc j'avais pris un bateau avec des volontaires de Paris à Brindisi, un train de Paris à Brindisi, ensuite un bateau de Brindisi à Haïfa. Et là je me suis retrouvé dans un kibbutz, le kibbutz Yagour, où je ramassais des oranges. Ce qui était affreux, c'était une chaleur de bête, c'était très difficile. Et la guerre des six jours a éclaté. J'ai fait le mur avec un type qui voulait se battre pour son pays. Lui, c'était son pays. J'ai raté toutes les photos. Donc j'ai compris que c'était compliqué. Donc quand je suis rentré à Paris, j'ai fait un stage à François, au laboratoire de François, où j'ai appris la photographie. Et ensuite, je suis parti au Vietnam. C'était pas si facile que ça, la photo. Mais j'avais choisi ça pas parce que j'aimais particulièrement la photo, parce que j'avais l'impression que c'était, ça me donnerait la permission d'aller avec les soldats. Et c'est vrai que, avec un appareil photo et une petite carte de presse complètement bidon que j'avais à l'époque, j'avais marqué PIF Magazine comme journal, je passais partout. Donc voilà. Alors qu'avec un stylo, j'aurais été moins crédible à 18 ans. L'appareil photo cachait mon âge. Je m'étais laissé pousser une moustache de bandit mexicain pour avoir l'air plus vieux. Enfin, Et ça marchait très bien. Donc, et puis en plus, au Vietnam, la chance que j'ai eue, c'est que les soldats avaient le même âge que moi. Les officiers, ils avaient 25.
Ce qui donne des photos extrêmement troublantes parce qu'on sait l'âge que vous avez, on sait grosso modo l'âge qu'ils ont. Et il y a certaines photos où, vous le disiez tout à l'heure, on rigole sur le front, Patrick Chauvel. Et donc, il y a des sourires, il y a des regards perdus, il y a des corps dans toute leur jeunesse. Et ça fait un face-à-face étrange. D'ailleurs, dans ces photographies, Patrick Chauvel, je me suis dit, c'est dingue, il photographie presque pas la guerre, en fait. Il photographie vraiment des jeunes hommes qui, pour certains, sont aussi couillons d'être là que lui, peut-être.
Ben, au début, les soldats américains, pour la plupart, n'avaient pas le choix, hein, puisque ceux qui ne faisaient pas d'études, en fait, c'était l'Amérique pauvre qui était au Vietnam. C'était un mélange. Il y avait aussi des blancs pauvres, hein, des fermiers d'Alabama, des gens comme ça, qui étaient là-bas, mélangés avec les blacks. Ils se mélangeaient au combat. Les balles ne faisaient aucune distinction dans la couleur de peau, mais dans les bars à Saigon, ils ne se mélangeaient pas. Et ni avec les Vietnamiens, ni entre les noirs et les blancs. C'est ce que me disaient les soldats vietnamiens, parce que j'avais beaucoup d'amis sud-vietnamiens, enfin on dit aujourd'hui vietnamiens, mais qui combattaient pour le Sud, qui me disaient que c'était la différence avec les Français. C'est-à-dire que les Français, quand ils étaient en permission, sortaient avec leurs collègues vietnamiens. Les Américains, non, très peu. Ils se mélangeaient pas. Mais sur le terrain, ils se mélangeaient, ils étaient même solidaires entre eux, et c'était vraiment une Amérique profonde. Non volontaires qui étaient là, sauf les forces spéciales, les Marines et les gars de la First Cav, qui étaient des troupes professionnelles, quoi, des lifers, comme ils disent, des gens qui étaient là pour la vie. Et c'était très différent. Alors, au début, j'ai travaillé avec la troupe et après, petit à petit, je me suis mis avec les forces spéciales parce que d'abord, c'était moins dangereux. Les combats étaient plus forts, plus nombreux, plus puissants, mais les gens étaient plus professionnels. Donc j'ai fait les deux Amériques, celle qui est professionnelle. Ils n'avaient pas le choix, donc oui, ils ont 18 ans, ils savent même pas où est le Vietnam sur une carte. Vous mettez un type de l'Alabama profonde au Vietnam dans les années 70, c'est compliqué quand même pour qu'ils comprennent l'esprit asiatique et cette guerre de libération, comme disait Ho Chi Minh.
Et vous étiez en mesure de comprendre?
Pas au début. Au début, j'étais très pro-américain de par le fait que mon père s'est battu côte à côte avec les Américains contre les Allemands. Il avait gardé pas mal d'amitié avec des Américains de l'époque. Donc tous les récits que j'entendais et les hommages, y compris quand il est mort plus tard, il a fait partie d'une unité américaine comme éclaireur à un moment donné. Il était dans la deuxième DB Espahi, mais par moment il a travaillé avec les Américains.
Donc il y avait cette empreinte forte, en fait, qui vous faisait lire le conflit là-bas, sur place, d'une certaine manière.
Les Américains libérateurs. Lafayette, nous voici. Donc j'avais cette culture-là. Et en fait, c'est en faisant tomber un appareil photo dans la boue, devant un officier vietnamien prisonnier, qui était attaché, mais qui n'avait pas de bandeau sur la bouche, quand il m'a entendu crier « merde », il m'a interpellé, il m'a dit « vous êtes français ?» Et je ne l'aimais pas tellement, il m'avait tiré dessus pendant au moins 4 heures avant d'être fait prisonnier, et blessé quelques camarades américains devant moi. Enfin, pas lui, ses troupes, lui c'était un commissaire politique, un officier, un type instruit. Il m'a expliqué qu'il avait fait ses études à la Sorbonne, et il m'a dit « vous voulez que je vous explique un peu mon combat ?» Mais au début je lui ai dit « non, je m'en fous ». Et il m'a dit, vous savez, vos amis américains ont pas toujours raison. J'ai fini par l'écouter de mauvaise humeur, et petit à petit, ma mauvaise humeur basculait sur les Américains. Et je ne l'aimais pas, lui, mais j'arrivais plus à être aussi pote, pas forcément avec les soldats américains qui étaient là, parce qu'ils n'avaient pas forcément, mais avec l'ensemble, d'un seul coup, il y avait un truc moins clair pour moi.
Comme quoi, la langue française, c'est étonnant, Patrick Chauvel, on y reviendra, mais savoir quelle langue on parle dans l'endroit où on se trouve, au moment où on se trouve. Récemment, vous racontiez combien vous avez été ébranlé par un ancien ami fixeur sur d'autres guerres et qui, israélien, vous appelle le soir de l'attaque du Bataclan et de Saint-Denis pour vous dire « ok, en fait, c'est toi qui parles français, du coup, c'est toi qui vas fixer ». Ça a été quelque chose qui s'est... Et puis, j'ai lu ces mots-là quand même en introduction, Patrick Chauvel, parce que je trouve que c'est littéraire comme invitation. que vous nous faites entrer dans vos 50 ans d'archives, dans la toute petite, petite lucarne de 50 ans d'archives d'images de guerre, par un texte qui est littéraire, qui s'approche de la mythologie, qui appelle Protée, qui se demande si la guerre est une cause divine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mais
la langue.
Oui, mais ce sont des textes aussi que j'ai lus et que j'ai récupérés et dont je me suis inspiré. Il y a un peu de tout dans ce texte, des Grecs, mais qui sont quand même des grands guerriers et qui ont vécu la guerre aussi, et donc qui parlent de la guerre.
Qui l'ont beaucoup raconté.
Or, moi, je raconte aussi. Donc, je m'inspire aussi des gens qui l'ont bien raconté et bien avant moi. Je m'inspire pas en photo, mais je m'inspire tout court, moi, en tant que personne. Et ce Vietnamien m'a transformé en journaliste. C'est-à-dire que d'un seul coup, je n'aimais plus personne vraiment. J'avais une grande solitude. J'arrivais plus à être le camarade comme ça des Américains, ni des Nord-Vietnamiens, ni des... J'étais dans la merde en fait, j'étais journaliste.
C'est la meilleure position?
Non.
C'est la pire?
C'est désagréable. C'est bien de croire à quelque chose quand même. Et donc je me suis dit, bon, je vais raconter au mieux. D'ailleurs, le soldat américain a vu ma mauvaise humeur, c'était un lieutenant. Et il m'a dit, qu'est-ce que t'as? Et donc je l'ai engueulé en disant, qu'est-ce que vous allez faire des prisonniers? Enfin bref. Et il m'a dit que je te demande pas ta sensiblerie, je te demande ta sensibilité. C'est pas pareil, ne me fais pas chier avec ta sensiblerie. Raconte ce que tu vois.
C'est formidable quand on est journaliste de pouvoir, et qu'on aime raconter des histoires, raconter une histoire très forte. Et c'est vrai que c'est au cours des guerres qu'on rencontre souvent les histoires les plus fortes. Parce que les gens, la mentalité et les personnalités des gens sont transformées par la guerre. Elles apparaissent beaucoup plus... à nu, beaucoup plus sincère, beaucoup plus simple. Les relations entre les gens sont beaucoup, beaucoup plus faciles à vivre d'une certaine façon. Et donc, c'est plus agréable et plus facile pour un journaliste de raconter et de refaire ses rencontres. Je suis persuadé que la plupart des vrais correspondants de guerre, des grands journalistes de guerre, sont des gens qui quittent quelque chose avant d'aller vers quelque chose. C'est-à-dire, ce sont des gens qui quittent. C'est un peu comme les grands voyageurs, d'ailleurs. Les grands voyageurs, souvent, sont des gens qui ne vont pas quelque part, mais qui quittent quelque part. Et donc, les journalistes de guerre sont souvent des gens comme ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'arrivent pas à vivre normalement pour des raisons familiales, sentimentales, d'autres raisons, enfin, qui peut-être n'arrivent pas à s'intégrer normalement dans une vie sociale parisienne ou française, et qui donc sont déséquilibrés d'une certaine façon. Et surtout, la particularité de la guerre, et je pense que c'est une des raisons pour laquelle elle se déclenche aussi facilement, c'est qu'on ne vit qu'au présent.
1998, c'était Jean Hatzfeld, dans l'émission Cabinet de Curiosité sur France Culture, au micro d'Annie Toubiana. Alors, tous ces gens que j'ai rencontrés, qui font peu ou prou ce métier que j'exerce, dit Jean Hatzfeld, sont des gens qui quittent quelque chose. Et je vous voyais, Patrick Chauvel, comme ça, un peu hocher la tête en disant « pas vraiment ».
Bah, d'abord, on ne peut pas généraliser, mais... Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui nous attendent, en tout cas à un moment donné. Au début, moi, personne ne m'attendait, hein, je quittais rien du tout. Je m'ennuyais plutôt à Paris.
Vous quittiez l'ennui, alors?
Oui, d'accord. Bon, on peut s'ennuyer à la guerre, hein. Ça peut durer longtemps, un bombardement, avant qu'il y ait un assaut. Non, moi, j'ai plus l'impression d'abandonner les gens quand je quitte la guerre. Ça, c'est dur. Parce que vous avez des gens avec qui vous ont allé protéger, avec qui on a partagé de la nourriture, des moments forts. Et d'un seul coup, ou votre journal, ou vous n'avez plus un rond, ou ça suffit, vous avez l'impression d'avoir fait le tour un peu, et où il y a une autre guerre, ça arrive aussi, hein, on passe d'une guerre à l'autre, ça m'est arrivé en Iran, il y a eu l'invasion russe, je suis passé de l'Iran directement avec les Moudjahidines de l'autre côté, sans passer par Paris. On a l'impression de les abandonner et de retourner à Paris et voilà quoi. Et eux, ils sont toujours en train de se battre parce que c'est pas parce que les journalistes rentrent que le conflit est terminé. Le conflit est fini pour nous, mais pas pour eux. D'ailleurs, on garde des relations avec ces gens. C'est des visages, c'est des noms, c'est des... Et sur sa phrase sur les gens se changent à la guerre, les gens sont différents. Je pense pas. Je pense que c'est la vraie personnalité des gens qui ressort. Un type qui arrive à donner le change en temps de paix va pas pouvoir le donner en temps de guerre.
Mais il y a une forme de comme de radicalisation, comme de simplification des relations humaines. Ça pourrait paraître paradoxal en l'écoutant Jean Hatzfeld. Au final, c'est comme s'il y avait une manière de dénuder le social, quoi, de rendre les choses plus nues.
Oui, puis vous avez affaire à des gens qui peuvent mourir le lendemain ou dans le quart d'heure qui suit. sont des gens armés, sont des gens qui croient en général à ce qu'ils font. Hein, ils sont animés par quelque chose. Donc déjà, ça les rend beaux. Hein, les gens, quelle que soit la cause d'ailleurs, même si on est complètement contre leur cause, ou que moi je la trouve mauvaise, ça m'arrive plein de fois d'être avec des gens, je ne suis pas du tout d'accord avec eux, mais je suis là pour raconter la partie de l'histoire qui les concerne, pour si possible raconter l'autre partie. En Yougoslavie, on pouvait changer de camp, aller côté serbe, aller côté bosniaque, aller côté croate. J'étais pas forcément d'accord avec les uns et les autres, mais je voyais la sincérité des gens qui se battaient. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est de voir comment ils fonctionnent, comment leur pensée fonctionne. Après, la photographie, bon, voilà, je photographie ce que je vois, même si c'est toujours, évidemment, ma décision de cadrer de telle manière avec mon éducation à moi. On représente quoi, 10% de l'humanité, nous. Peut-être qu'un photographe africain d'Amérique latine photographiera pas la même scène de la même manière que moi.
Donc vous n'avez pas, si vous avez à choisir un cadre, vous n'avez pas à choisir votre camp. Vous êtes là pour dire ce que vous voyez, raconter. On entendait aussi Jean Hatzfeld. Les gens qui vont sur ce terrain de guerre, c'est des gens qui sont passionnés par l'idée de raconter des histoires passionnantes.
Ou on est passionné par le récit. Pour moi, je le dis pas parce que je suis là, le meilleur média, c'est la radio, pour la simple raison, c'est que ça fait fonctionner l'imaginaire. Et que quand on donne une photo, on donne la photo que j'ai prise moi. Quand on filme, il y a un montage, il y a un commentaire. Quand on écrit un papier, il y a le style. Mais quand on fait de la radio, il y a des moments où on laisse parler les autres et on décrit des gens. Donc c'est plus comme la lecture d'un roman. C'est-à-dire qu'on imagine, ça fait travailler les ménages. Du public qui d'un seul coup imagine avec le son d'ambiance et se met dans la peau ou du journaliste ou des combattants. Ça, c'est ce qu'il y a de plus fort, quoi. Mais il faut beaucoup de talent pour pouvoir faire ça.
Et pendant ces 50 années de conflit, vous avez photographié de par le monde, Patrick Chauvel, vous preniez des notes ?
Non, je ne prends pas trop de notes, mais je me souviens de tout. Donc après, quand j'ai écrit mes bouquins, ça revenait à chaque fois à tel point que j'avais des moments où j'étais obligé d'arrêter d'écrire.
Et c'était trop fort.
Et de faire un tour de périph' en moto, quoi. Avec une bonne série de PV à l'arrivée, quoi.
Vous vous souvenez de tout?
Ouais.
Il y a des gens qui prennent d'autres méthodes, qui font blackout. Ils se souviennent de rien. Ils ferment complètement la porte de leur esprit.
Ouais, mais moi, j'aime ça. J'aime cette aventure de la guerre. Sans ça, je le ferais pas. Moi, j'aime partir, comme je l'ai fait récemment avec Adrien Jaulme en Syrie, du Figaro. Dans l'avion, quand on prend la voiture et qu'on va traverser une zone extrêmement dangereuse où ça dure 6 heures, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Il y a le danger tout autour, le chauffeur a son pistolet, sa Kalachnikov posée sur le changement de vitesse.
Et ça, vous aimez ça ?
Oui, j'aime cette aventure-là. Mais ça, c'est perso, ça n'a rien à voir avec le reportage. J'aime partir sans savoir, quoi. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que je vais rencontrer des gens formidables ? Est-ce que je vais être tué ? Est-ce que je vais être prisonnier ? Qu'est-ce qui va se passer ?
C'est l'aventure. Après, le qu'est-ce qui va se passer n'est pas toujours suspendu à la mort. Enfin, on peut considérer qu'on est toujours suspendu à la mort, mais...
On n'y pense pas, à la mort. Moi, je ne pense pas à la mort. Je ne pense même pas à la blessure. Je pense à... Est-ce que je vais rencontrer les bonnes personnes ? Est-ce que je vais pouvoir raconter l'histoire ? Est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'au front ? Parce que ce n'est pas toujours facile. Il y a quelquefois des gens qui ne veulent pas qu'on voit ce qui se passe. Et il faut aussi se poser la question sur... Quelquefois, pourquoi on nous laisse passer ? À qui vont servir les images ? Faire attention des deux côtés. Le fait qu'on nous empêche de travailler, c'est plutôt une médaille. Hein. Ça veut dire qu'on est utile, en fait. Sans ça, pourquoi on nous emmerderait ?
Ça, vous en avez beaucoup douté ? D'être utile, de faire quelque chose qui vaille pour la communauté ? Ramener des images de là-bas ? Qu'est-ce que j'étais faire là-bas ? Pourquoi faire ? Faut que ça serve.
Ça, c'est une question que je me suis posée après. Au début... J'aimais tellement faire ça, et faire des photos et raconter que je me posais pas la question. Après, en voyant quelquefois des gens dire des inepties sur certains conflits, après qu'on ait travaillé des mois dessus, on se pose la question. On travaille quand même pas juste pour une élite, y compris dans sa propre maison quelquefois. Et bon, il y a cette anecdote où je revenais du Cambodge blessé, bronzé, plâtré, béquillé. Et le chauffeur de taxi me dit sport d'hiver. Et je lui réponds pas parce que j'étais d'une humeur moyenne. Je suis jamais de bonne humeur quand je rentre. Et il me dit vous venez d'où ? Parce que je lui répondais pas au feu rouge. Je vois ses yeux dans le réto. Et je lui dis plein de peine. Et il a eu une petite ride d'incompréhension et il m'a dit, je connais pas cette station, c'est où? J'ai cru que j'allais l'étrangler parce que ça faisait quand même un an que j'envoyais des photos sur la guerre du Cambodge. Et puis après, je me suis dit, bon, je m'en fous. On verra bien, on travaille pour la mémoire. Celle des autres, peut-être, je sais pas. Pour les Cambodgiens. Comme les soldats qui, à un moment donné, ne se battent plus pour la cause quand ils savent pas si elle est juste. Ces soldats américains qui rempilent alors qu'ils savent que la cause est perdue. Ces volontaires français qui sautent les derniers sauts sur Dien Bien Phu alors qu'ils savent que c'est foutu. Et on demande des volontaires pour tenir un peu plus longtemps. Il y a des cuistots, des types qui travaillent dans les bureaux, qui sautent en parachute de nuit sur Dien Bien Phu pour les copains. Pour le type qu'on a à sa gauche et le type qu'on a à sa droite. C'est tout. Aussi simple que ça. Juste pour les potes. Ils abandonnent pas leurs copains. Comment expliquer que des soldats français se sont battus d'une manière aussi incroyable pour des collines dans une vallée perdue à Dien Bien Phu? Enfin, il y avait quoi, 12 000 soldats français, 50, 60 000 soldats vietnamiens qui les attaquaient. Ils se sont battus jusqu'au bout. Jusqu'à pratiquement plus de possibilités.
Je sais pas, l'endoctrinement?
Non, ils sont plus intelligents que ça. Plus de personnalité que ça. Regardez la personnalité des survivants. Regardez les livres qui ont été écrits.
L'ivresse du combat,
L'ivresse du combat, devant la réalité du combat, elle devient très vite dégueulasse. C'est pas beau, un homme coupé en morceaux. Ça pue. Ça pue la merde, ça pue le sang, ça pue la sueur. Non, c'est pas ça.
La fraternité, vous vous dites.
Oui.
Comme c'est dur de prononcer ce mot-là sur un terrain de guerre, quand même, non?
Oui, mais les hommes sont fraternels. Il y a une petite lumière au bout du tunnel, comme dirait Schoenhofer. Une petite bougie qui vacille, mais elle est là.
Pendant qu'on se tue par ailleurs.
Oui, mais ça, c'est dans nos ADN, hein, ça. Il faut lire Gaston Boutoul. La polémologie, l'étude de la polémologie. Il a voulu créer une université de la guerre pour qu'on la comprenne mieux, pour pouvoir l'arrêter. Il disait, on étudie la philosophie, on étudie les maths, on n'étudie pas la guerre, alors que c'est un des phénomènes les plus importants de notre société.
Mais on l'a fait beaucoup.
Oui, mais peut-être qu'on pourrait l'arrêter si on la connaissait mieux. Les raisons profondes de la guerre, qui sont sociales, qui sont le surnombre, peut-être, je sais pas. En tout cas, il y a un livre comme ça, très épais, qui s'appelle La polémologie, par Gaston Boutoul. Moi, je le lis souvent, pour essayer de reconnaître les signes. Parce qu'il y a quelque chose de l'humanité entière. Hein. C'est-à-dire, les hommes se ressemblent à la fin. Sur mon casque, il y a écrit SSDD, Same Shit, Different Day. C'est les mêmes photos, en fait.
Votre casque de...
Quand j'en mets un. Il y a un soldat américain en Afghanistan qui m'a barré, qui m'a dit Same Shit, Same Day. Puis il est parti d'un grand rire. Et on est parti au combat.
Vous dites que vous travaillez pour plus tard aussi, pour l'histoire, pour la mémoire. On va écouter la voix de James Nashtway.
We witness what we witness.
Ah ben, on est témoin de ce dont on est témoin.
None of us wish to see.
Aucun d'entre nous ne souhaite voir ce genre de choses.
But if indeed they
Mais si,
happen,
en fait, elles se produisent,
and we're there,
et que nous sommes présents,
then as witnesses,
et bien, en tant que témoins, c'est notre devoir de les prendre.
Withholding truth.
Retenir, effacer, ne pas montrer la vérité a le même effet que le mensonge. À long terme, nous sommes en train, évidemment, d'enregistrer l'histoire. Donc je pense que, véritablement, pour affiner ce que je disais précédemment, ce n'est pas de notre devoir de nous censurer sur l'instant. C'est trop compliqué de comprendre tout au moment où ça se produit. On y est et il faut enregistrer ce moment. On peut juger plus tard comment utiliser la photo. Est-ce qu'il faut utiliser cette photo pour créer le contexte pour cette photographie? Mais si on rate ce moment, c'est parti à jamais. Donc il est très important qu'on soit là et qu'on enregistre tout. Et pourtant, il est important aussi de ne pas être sensationnaliste, de travailler dans le sensationnalisme,
But to bring to our awareness a kind of a sense of compassion.
De mettre dans notre prise de conscience un sens de compassion et d'humanité.
France Culture, par les temps qui courent. Marie Richeux avec Patrick Chauvel.
Juste avant la musique de Camélia Joubran et Sarah Murcia, on entendait la voix de James Nashway, une voix que vous connaissez. Patrick Chauvel, il était en octobre 2013 à la Grande Table. Nashway qui, dans cette archive, commençait par dire « on est témoin de ce dont on est témoin ». Et en fait, la formule est simple et elle est bouleversante. Parce qu'elle dit la force de la position du grand reporter photographe. L'espèce de chose comme ça un peu à plat qui est bah voilà, on est chargé de ça. Et il dit parfois c'est trop compliqué sur le moment, mais la justice et les questions mémorielles viendront plus tard. Vous dites aussi souvent, Patrick Chauvel, qu'il y a des photos que vous n'avez pas montrées jusqu'à maintenant et que vous montrerez plus tard. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas des photographies qu'on ne peut pas regarder.
On peut les regarder. Bon, d'abord, il y en a qui sont pas regardables, qui sont presque médicales,
mais qui pourront être quoi, utilisés par une cour de justice internationale.
Peut-être, oui. Le TPI l'a prouvé. Hein. Ils ont utilisé pas mal de témoignages de journalistes et d'images de caméra et des enregistrements, comme celui de Radko Mladic qui demande à ses canonniers de tirer sur les civils. Donc ça, il y a ça. Et puis il y a des photos qui peuvent être mal interprétées sur le moment. Parce qu'elles peuvent donner une mauvaise image d'une action générale, alors que c'est juste un détail. En revanche, ce détail révèle la folie des hommes. Donc, ça peut être une étude psychiatrique sur ce que la guerre fait aux hommes plus tard, hors contexte. Voilà, il y a ce prêtre au Liban qui ouvre le feu en soutane. pas montrable à ce moment-là, parce que ça voudrait dire que tous les prêtres vont être tués par les musulmans qui avançaient sur les positions. Les Israéliens avaient quitté les positions, et il y avait une course entre les chrétiens et les musulmans pour reprendre ces positions. Les musulmans gagnaient, mais les prêtres étaient respectés.
Il faut parler de cette image, parce qu'il y a, un soldat qui le regarde comme ça, un peu aigri.
Parce qu'il vient de le pousser, en fait.
Et lui, il est en soutane noire, petit col blanc, et il y a une espèce de d'arme qui fait presque sa taille à l'horizontale.
Et il tire sur la vallée, parce qu'on brûle son église, et il hurle. Il a l'air de sourire sur la photo, mais en fait, il hurle. Et après, il est venu me voir, en disant « Ça va être désastreux, cette photo sort ». Et ça aurait été la politique des maronites de faire ça. J'aurais dit, bah oui, enfin, je photographie ce que je vois et je...
Et ça raconte ce que je dois raconter.
Ça raconte ce que je dois raconter, donc va te faire foutre. Mais non, c'est juste un homme qui a fait ça pendant 30 secondes, qui ne raconte que son histoire à lui, qui est intéressante aussi, mais qui pourrait avoir des conséquences terribles à une grande échelle. Donc non.
Mais ça veut dire qu'il y a une immense responsabilité de votre compréhension du conflit au moment où il a lieu, Patrick Chauvel, en tout cas au moment où les photos sont censées être publiées. Parce que ça veut dire que vous prenez la responsabilité de faire un gros plan sur un des aspects de la guerre, ou une possibilité de la comprendre d'une certaine manière.
Oui, mais c'est ça, c'est notre, on va dire entre guillemets, talent. Mais si on n'a pas de talent, on trahit les gens qui se confient à nous. Ils comptent sur notre talent, qui est plus ou moins fort, mais en tout cas, ils comptent sur nous. Quand ils me disent, viens, photographie ma maison détruite, regarde mon fils qui est blessé. Si après je lui dis j'ai loupé la photo, je l'ai trahi.
Mais il y a à faire la photo, puis il y a ensuite décider de la montrer. Il y a ensuite discuter, j'imagine, avec des rédactrices ou des rédacteurs en chef en disant, on choisit celle-là, c'est de celle-là qu'on va faire une double page. À un moment donné où, par exemple, politiquement, ça va être brûlant, c'est ça qu'on montre. Ça, c'est une responsabilité importante.
Oui, oui, bien sûr, c'est un métier sérieux, en fait. Au début, je croyais que c'était une façon de vivre, mais en fait, non, c'est un métier. Enfin, c'est les deux. Il y a des photographes comme Eddie Adams qui a toujours regretté cette photo de du général Lohan qui exécute un prisonnier au Vietnam en pleine rue. Il était ami avec le général Lohan, et moi aussi, d'ailleurs. Et en fait, Lohan exécute un type habillé en civil, derrière ces lignes, qui vient de faire tuer, en tout cas, son ami colonel et sa famille au complet. On lui amène ce type. Il le flingue immédiatement. C'est une histoire entre deux hommes. Un qui a tué les amis et la famille de son ami. Et aussi, un type qui est infiltré derrière les lignes, en civil. C'est-à-dire considéré comme un traître ou un espion. Or, sur la convention de la guerre, il est exécutable immédiatement. Il n'a pas été hors la loi en faisant ça. Cette photo a été désastreuse pour la carrière de Lohan, désastreuse pour l'administration américaine. Elle a fait partie des choses qui ont retourné l'opinion publique américaine, qui disait on peut pas donner de l'argent et des armes à des gens qui font ça. Mais parce que hors contexte, effectivement, il y a que ça, il y a une exécution sommaire. Mais si on connaît toute l'histoire, c'est pas du tout la même chose. Donc on aurait pu la raconter plus tard. Elle ne résumait pas ce que faisait tout le monde au Vietnam. De toute façon,
donc ça veut dire que vous faites des photographies pour résumer la situation.
Bah, on essaye de raconter l'histoire avec le plus de talent possible et avec
Raconter l'histoire, par exemple, quand c'est ça peut être n'avoir pas peur du temps, de la complexité, de l'opacité. Quand, par exemple, un romancier raconte une histoire ou même un texte, il peut y avoir du trouble. Vous dites dans la photo, faut pas qu'il y ait de trouble, faut qu'elle soit lisible, faut qu'on comprenne de quoi il s'agit.
Qu'on comprenne, même si on est troublé. Hein. On peut aller à la limite, quand même, bien sûr. Il faut quand même... Il y a des photos qu'il faut qu'elles soient suffisamment fortes et qu'elles résument une situation. La différence entre la photo, ce que vous parliez du texte, des romans et des choses comme ça, c'est qu'un livre, quand il y a quelque chose qu'on comprend pas ou qui est un peu trop fort, on le pose.
On a du temps.
Et on réfléchit. Et on reprend le texte. Une photo, elle vous saute à la gueule, comme un puma, quoi. Elle vous prend la gorge, une photo. Et elle vous empêche de réfléchir sur le moment si elle est trop puissante. Et puis, il y a des réactions différentes. Moi, ce qui m'intéresse dans les festivals et dans les rencontres avec le public, c'est de les écouter. Parce qu'ils regardent les photos. Quelquefois, on fait des projections, on fait des workshops. Même avec les jeunes photographes, j'essaie de leur raconter mon expérience pour qu'eux, ils continuent ce métier. On a besoin de gens comme Édouard Elias ou comme mon fils Antoine Chauvel qui vont prendre le relais, mais avec bon sens, qui soit pas trop romantique avec nos histoires, quoi, comme je l'ai été moi d'ailleurs, parce qu'on prend des claques au fur et à mesure. Mais enfin, pour revenir à la photo, il faut que la photo soit lisible, comme vous dites, mais enfin, c'est compliqué, hein. J'ai du mal à expliquer une photo, en fait.
John O'Bland. En tout cas, quand il s'agit de la choisir, et parfois c'est aussi le travail des journaux avec lesquels vous travaillez, mais quand il s'agit de la choisir, pour vous, ça ne fait pas de doute, quoi. Vous savez, en rentrant de tel ou tel terrain de conflit, que c'est cette photo-là qu'il faut publier.
Non, je choisis 30 à 40 photos que je soumets aux journaux. Après, ils se démerdent. Parce qu'ils ont aussi, eux, leur opinion et leur manière de voir les choses. Et il ne faut pas oublier que c'est un travail d'équipe. Moi, je suis pas seul sur un terrain. Il y a un photographe local qui va photographier très différemment de moi. Il y a un photographe irakien qui travaille très bien, qui va être là. Il y aura un photographe de l'autre côté qui travaillera presque contre moi. Et tout ça arrive à la même rédaction. Donc le terrible choix, c'est le rédacteur en chef et le chef du service photo qui va le faire. Moi, je suis pas là. Je suis toujours sur le terrain. Donc moi, je soumets un premier choix de mes photos et puis après ils se débrouillent.
Et vous êtes arrivé de dire Patrick Chauvel, pourquoi ils ont choisi ça?
Tout le temps, mais pas forcément
en regrettant.
En regrettant,
ouais,
puisque c'est moi qui ai donné ces photos de toute façon. Donc quelquefois je disais, ah, c'est merde, c'est dommage qu'ils aient pris cette photo, et on me répond, bah t'as qu'à pas leur envoyer, ce qui est pas faux. Donc moi je l'avais déjà choisi au départ, donc. Quelquefois, c'est plutôt la mise en page, où je trouve bizarre. Ils mettent en petit quelque chose que j'aurais vu en grand. Enfin, mais en même temps, bon, chacun... C'est un travail... On est plusieurs. Hein. Il y a le journaliste écrit, il y a le journaliste de radio, il y a la télévision, il y a le type en face, il y a le journaliste local, il y a le rédacteur en chef, il y a la tendance du journal, c'est pas les mêmes. Time et Newsweek prennent pas les mêmes photos sur le même conflit avec le même photographe, à la limite. Et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que du coup, le public a un énorme choix. Donc il va pas se plaindre. Alors après, c'est la question, qui fait le kiosque? Le public ou le journaliste? Ça, bon, on peut la poser longtemps, celle-là.
Oui, il faut continuer de la poser.
Oui, bien sûr. On se pose des questions sur ce métier tout le temps. Quelquefois, on se demande ce qu'on fout là, hein, quand on est en train d'avoir soif, d'avoir trop chaud, d'avoir faim. Et se dire, mais qu'est-ce que je fous là, quoi?
Et alors, vous avez une réponse qui tient le choc comme ça depuis 50 ans ou pas?
Non, pas vraiment, non. J'avais fait un film qui s'appelle Rapporteur de guerre avec Antoine Nova. Je pose la question à tous mes confrères. Il n'y a pas vraiment de réponse, quoi.
Mais il y a quand même une idée, en tout cas pour certains d'entre eux, parce que c'est principalement des hommes, d'être une sorte de grain de sable dans un discours politique qui parfois sème des mensonges, d'être des lanceurs d'alerte, qu'on appellerait aujourd'hui, de propager une forme de vérité. C'est quelque chose qui revient beaucoup quand même dans Rapporteur.
Oui, bien sûr. Puis il y avait ce photographe israélien, Miki Kratzman, quand je lui dis à un moment donné, tu crois que ça sert à quelque chose que toi, israélien, tu ailles en territoire palestinien alors que t'as pas le droit en tant que citoyen israélien, tu prends un double risque. Parce qu'à un moment donné, on s'est fait tirer dessus par l'armée israélienne. Et on était cachés derrière des espèces de rochers entourés de moudjahidines. Et lui, il était au milieu, il est israélien. Et il me regardait en disant, bah merde. Et je lui dis après, mais ça te fait quoi de te faire tirer dessus par ta propre armée? Il me disait, je préfère me faire tirer dessus par ma propre armée que de moi tirer sur les Palestiniens. Et je lui dis, mais ça sert à quoi que tu fasses ça? Et il m'a dit, un petit bruit dans l'oreille de nos politiques qui les empêche de dormir. Et ce bruit constant, peut-être un jour, fera le grain de sable suffisant pour arrêter cette folie. Et je lui dis, c'est quoi ton rêve maintenant, aujourd'hui, à la fin du film? Et il se laisse glisser le long du mur, il s'assied, il me dit, d'être au chômage. C'est vrai qu'on a la sécurité de l'emploi.
J'allais dire mauvaise blague.
Très mauvaise blague.
Quand même. Vous disiez, Patrick Chauvel, qu'une partie de votre travail de transmission vous tenait très à cœur, la discussion avec les étudiants, avec les jeunes photojournalistes, avec votre fils, avec qui parfois vous partez sur des terrains de conflit, et qu'il ne fallait pas qu'ils aient les mêmes illusions que vous parce qu'elles allaient tomber. Lesquelles?
Bah d'abord, je me croyais invincible, et on l'a bien vu.
Votre corps, vous voulez dire?
Oui, totalement invincible. Il ne m'arriverait jamais rien. Et la guerre a une grosse voix. Ouais. Je me suis retrouvé à l'hosto, quoi. Et faire attention à ça, mais je pense qu'ils sont moins bêtes que moi. Mais à l'époque, j'étais vraiment plein d'allant, quoi. J'étais... Enfin, c'était les trois mousquetaires, quoi. C'était... Mais faire attention, quoi. je sais pas, ils sont... Édouard Elias, quand il a été capturé par Daesh en Syrie, son grand-père qu'il élevait, qui était général, j'ai appris qu'il était dans la région où j'étais, je suis allé le voir, je le connaissais pas, hein, je connaissais pas Édouard. Mais je savais que son grand-père était dans l'angoisse, parce qu'Édouard Elias est orphelin. Et donc je suis allé le voir, je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, vous savez qu'on cherche votre fils, on fait tout ce qu'on peut, le gouvernement, nous les journalistes, avec nos contacts, on cherche, on va le trouver, vous inquiétez pas, il va revenir. Et croyant me faire plaisir, il m'a dit, venez, je vais vous montrer quelque chose. Et il m'a amené dans la chambre de son fils, et il m'a montré fièrement, en croyant me faire plaisir, petit mon fils. Livre, mon petit-fils. Il m'a montré fièrement, en croyant me faire plaisir, sur sa table de nuit, mon livre, Rapporteur de guerre. J'ai eu un choc et un pincement. Je me suis senti d'un seul coup responsable de la disparition d'Edouard Elias. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai écrit là-dedans? Effectivement, je raconte l'aventure et c'est qui lui a donné envie de faire ça. Edouard Elias, c'est un type qui faisait des études de peinture. Et qui, d'un seul coup, en lisant ce livre, s'est dit, tiens, ça m'intéresse.
Ça ressemble à une histoire que vous racontiez tout à l'heure quand même, Patrick Chauvel. Joseph Kessel, votre père, Schoendorfer. J'ai l'impression d'entendre des hommes qui se refilent de bâton, quoi. Mmh. On va faire la guerre et puis on va la raconter.
Bah ouais, c'est un peu ça, non? Je sais pas où ça nous mène, tout ça. Mais il faut bien la raconter, quand même. Et puis, toute la bande que vous avez citée, Rémi Ourdan, Adrien Jaulme, Jean Asfeld... C'est des copains, on aime ce métier. On aime l'aventure. C'est vrai que la guerre, c'est horrible. Et bien sûr, tout ça, on le sait. Mais il faut aussi admettre qu'on aime faire ce métier, quand même.
Oh bah c'est l'une des grandes honnêtetés que vous avez de le répéter. C'est-à-dire que c'est aussi votre moteur que d'être là-bas.
Oui, oui. D'un seul coup, quand le dit, aïe, 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 this is not good. On a une espèce de poussée comme ça, on prend son appareil photo, on règle tout de suite qu'est-ce qui va se passer, quoi.
Comment vous avez choisi dans les 50 ans d'images que vous avez réalisées sur plus d'une trentaine de terrains de guerre, Patrick Chauvel? Parce que là, quand, par exemple, dans la nef de la Maison de la Radio, on remonte cette exposition, on se dit, par exemple, sur je sais plus quel conflit, mais il y a une photo. Je me dis, bah, évidemment, elle n'en a pas fait qu'une. Une seule photo, ou genre trois.
Ben là où il y a une photo, d'abord il y en avait trois, normalement. Mais ça a été horrible, donc j'ai laissé ça à ma compagne Anna Pitoun, ou à mes fils. Parce que mon fils Adrien, qui a 19 ans, il veut raconter des histoires aussi, mais en fiction, lui. Mais la fiction, c'est aussi la continuité des reportages, bien sûr. C'est toujours basé sur quelque chose de vrai. Ben, c'est eux qui regardent et je vois leur réaction. Je dis, bon, on va prendre celle-là, alors. Celles qui les photos qui leur parlent, quoi. Parce que moi, je peux pas choisir, c'est impossible. J'ai envie de montrer tout le monde. Il y a une affiche, mais on n'avait pas l'espace, là, où j'ai mis d'un côté des chefs d'État que j'ai photographiés fortuitement. J'ai pas exprès, parce que c'est pas ce que je fais. Mais je suis tombé sur eux. Voilà, c'est Castro à Cuba. Je suis tombé sur des chefs d'État. Donc, d'un côté de la grande affiche, on avait mis tous les chefs d'État. Y compris George Bush qui était en train de pêcher sur une plage à Miami tout seul. Et moi, je promenais mon chien qui faisait pipi sur la plage. Et je vois un type en costume noir qui s'approche de moi et je lui dis, merde, il a vu mon chien pisser sur la plage. Et pas du tout, il m'a dit, ne vous approchez plus de l'eau. Et je vois un petit bonhomme dans l'eau qui pêche. Et je dis, mais c'est qui? Et il me dit, it's the man. Je dis, who the fuck is the man? Il m'a dit, the man, the president. Et c'était George Bush, père, qui pêchait. Donc je me suis précipité, j'ai pris mon appareil photo qui était dans ma boîte à gants de ma voiture. Et j'ai pu faire 4 photos. Et c'était en pleine guerre. Et l'autre, il pêchait en short dans l'eau. Et donc j'ai fait cette affiche avec tous ceux qui déclarent les guerres. Et de l'autre côté, j'ai fait des portraits de combattants qui sourient, qui pleurent, qui sont horrifiés, des civils, des enfants... C'est-à-dire que d'un côté, c'est comme une pièce de théâtre, il y avait toute l'expo. À la fin, il y a l'affiche qui montre les acteurs. Et les réalisateurs, c'est les hommes d'État. Comme disait Kennedy, les
ça
vieux...
Ça ressemble à des vieilles histoires grecques, hein, pour en revenir à Patrick Chauvel. Hein, des dieux là-haut qui s'amusent avec des hommes en bas. Encore faut-il l'avoir, l'appareil photo dans la boîte à gants?
Vous l'avez toujours? Un appareil photo, oui.
Et là, c'est le petit téléphone qui est sur la table?
Bah ça, j'ai pas pris mon appareil photo là parce que j'avais mis une veste et ça déforme les vestes.
Toujours de l'humour, toujours de l'élégance.
Si possible.
Je dis ça parce que il y a une photographie où c'est votre fils qui est entre un char et vous, je pense, et qui semble comme ça en train de courir et qui a au moins deux appareils photo autour du cou. Et juste pendant la musique tout à l'heure, vous me disiez que la main ensanglantée, il se retourne vers vous en disant qu'est-ce que je fais, et au lieu de lui dire, je sais pas, bande-toi la main, vous lui tendez votre téléphone portable, j'imagine l'air de dire, tiens, si tes deux appareils sont foutus, il te reste ça, quoi.
Bah, continue, ouais. On est là pour ça. On va pas rentrer à Paris parce que t'as pété tes deux appareils, quand même. Et il a continué. Parce qu'il a envie. Parce qu'il aime ça. Et en plus, je le voyais ému par les gens qui avaient été tués ou blessés autour de lui. Et qui voulaient absolument. Le seul réflexe possible, c'est, bon, je prends une photo. Je raconte. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Alors évidemment, quand on est le seul à pouvoir intervenir, on va soigner les blessés, hein, évidemment, ou les évacuer. Mais les types ne seront jamais seuls. Quelquefois, ils sont aidés tellement vite, secourus tellement vite, qu'on n'a même pas le temps de faire une photo.
Est-ce qu'il reste un petit peu d'argent? On n'a pas beaucoup de temps pour faire des photos, mais est-ce qu'il reste un peu d'argent pour envoyer des jeunes gens ou des moins jeunes gens sur le front faire des photographies de guerre pendant suffisamment longtemps pour qu'elles soient suffisamment complexes et justes?
Ah, il faut qu'ils trouvent l'argent eux-mêmes, hein, parce qu'il n'y a plus d'argent dans ce métier, de la photo en tout cas. Il faut qu'ils partent. Quand les jeunes me disent comment je fais pour partir, enfin pour faire ce métier, je dis vas-y.
Bosse 6 mois et trouve-toi un billet.
Débrouille-toi, pars. Tu ne seras important que si t'es sur place. Les journaux t'enverront plus, ou très rarement, à part quelques types très connus, voilà, comme Édouard Elias qui a réussi à se faire un nom, par exemple. Sylvain Lézère, qui est un jeune photographe qui essaye, qui fait des belles choses, mais qui trouve pas l'argent. Enfin, il y en a plein, des jeunes comme ça qui, voilà, Gaël Germs, ce sont des femmes photographes aussi qui essayent, la petite qui a été tuée en Afrique, Camille Lepage, elle avait 24 ans. Elle avait pas d'argent, elle essayait l'aventure, elle essayait de raconter l'histoire. Elle était passionnée par ce qu'elle faisait.
Il y a d'ailleurs un film qui fait son portrait, qui va sortir dans pas très longtemps. Patrick Chauvel, on peut voir vos photographies jusqu'au 25 octobre dans la nef de la Maison de la Radio à Paris. Et rendez-vous bientôt au Mémorial de Caen.
Voilà, au Mémorial de Caen, bientôt, en février.
À partir du mois de février.
Voilà.
Et pour tout le temps.
Et pour tout le temps.
Merci beaucoup. À la réalisation ce soir, c'était Lise-Marie Barré. À la prise de son, c'était Philippe Mercher. Par les temps qui courent, c'est Romain de Bec-de-Lièvre, Jeanne Aléos, Marianne Chassor et Lucie Riondet. Dans un instant, 22h, sur France Culture. Très belle soirée.
Le jardin brûle. Citron gris explose, la fumée flotte autour des pêchers étranglés, et doucement les dahlias chavirent couleur de lune. Un homme nu marche dans la sombre. Il a la main crispée sur un vase d'opale et il tremble. Une dame étendue agonise en chantant. Son corps vert buvant les flammes. C'est alors que les pierres de la maison tombent sans bruit. Comme